Merci de votre accueil aujourd'hui. Et nous avons passé un bon week-end jusqu'à maintenant. Ça a commencé jeudi soir. Et donc, je suis à Paris, donc dans l'Ouest parisien. Je fais partie d'une équipe pastorale. On s'occupe d'une église qui s'appelle Le Colombier. Et je suis aussi missionnaire avec ma femme depuis 43 ans. Donc, nous avons le privilège de bourlinguer un petit peu partout en Afrique, francophone surtout, mais aussi en Asie, aussi dans d'autres pays. Et nous sommes reconnaissants pour le voyage et pour sa fidélité pendant le voyage. Et alors le titre, aujourd'hui, créer une culture dans l'Église où les disciples forment des disciples. Alors, j'utilise d'abord ce mot « culture ». Qu'est-ce que ça veut dire « culture » ? Alors, par déformation professionnelle, j'ai travaillé au niveau de l'anthropologie culturelle et la linguistique. Donc, je sais ce que c'est une culture, vous savez ce que c'est une culture. Mais simplement dit, une culture, c'est comment nous faisons les choses au milieu de nous. Et la culture repose sur des règles tacites qui régissent la manière que nous faisons les choses ici. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? La manière que nous faisons les choses ici. Et on me dit toujours, « Ah, c'est ici, Philippe, on fait comme ça. » Alors, j'ai eu le privilège avec ma femme de travailler dans une quinzaine de pays et de voir des cultures très variées, de voir des églises très variées. Et toutes les églises, qu'elles soient en France, partout, chaque groupe de personnes qui commence à vivre le royaume de Dieu ensemble, qui commence à suivre Jésus ensemble, ils créent une culture qui est vraiment la leur. Et alors, la question que je pose, est-ce que votre culture d'église est vraiment au service de Dieu ? Est-ce que votre culture d'église vous sert aujourd'hui pour devenir ce que Christ appelle l'Église à être? Et j'aimerais vous inviter à considérer quelque chose avec moi. Un changement. Je suis fils de missionnaire. Mes parents ont fait 50 ans en France. Ce sont des implanteurs d'églises pour les églises évangéliques libre de la France. Donc, ça fait des années que je traîne dans les églises. J'ai commencé devant un petit bébé et ça fait longtemps que je regarde l'église et je vois comment nous vivons ensemble, comment nous vivons le mandat que Jésus-Christ nous a adressé en tant que disciples de Jésus-Christ. Et ça me pose à moi un problème. Il faut que je me remette en question tout le temps. Est-ce que je suis en train de vivre dans une culture d'église qui avance le royaume de Dieu ? Ou non ? Vous savez ce que c'est une culture ? C'est quelque chose qui est figé, quelque chose qui est immobilisé. Vous savez, l'Église n'est pas appelée à être figée et immobilisée. Elle est appelée à être dynamique, toujours en transformation. Et c'est ce que j'aimerais vous défier ce matin. Défi, le mot, défier, le verbe. J'aimerais vous défier ce matin à vous poser la question, est-ce que comment je vis, est-ce que comment nous vivons en tant qu'Église, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que Jésus veut faire au milieu de nous que ce que nous vivons aujourd'hui? Et alors, j'aimerais vous présenter un changement de paradigme. Ah, ce beau paradigme, Kézako, comme on dit. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. Hein, c'est une manière de penser qui oriente notre manière d'agir. Donc, quelque chose dans notre tête, quelque chose que nous croyons, qui va orienter notre manière d'agir. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est vous poser la question, est-ce que nous avons besoin de changer de paradigme dans notre manière d'être dans l'Église? Est-ce que nous n'avons pas besoin de changer la culture de notre Église? Alors, je suis missionnaire, donc je suis déformé. Moi, je pense toujours à ce que Jésus nous a dit. Allez et faites des disciples parmi toutes les nations. Pour moi, c'est le leitmotiv de la vie, ça. Est-ce que vous vivez ça, vous? Est-ce que vous êtes en train de former des disciples, vous? Vous allez dire, ah non, c'est pour les pasteurs, ça. Frères et sœurs, non. Nous sommes tous appelés à être des faiseurs de disciples. Est-ce que c'est dans l'Église, ça? Pas du tout. Les disciples, ça commence dans le monde. Ça commence au travail, ça commence à l'hôpital où vous bossez, ça commence à la fac, ça commence dans l'entreprise où vous travaillez. Les disciples, ça commence avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et puis au travers de la vie avec vous, au travers de votre exemple, ils commencent à découvrir Jésus. Et puis ils disent, j'ai envie de vivre comme toi. Vous savez, la foi, c'est une chose qui est imitative. On imite. C'est comme ça qu'on grandit, frères et sœurs. On trouve des exemples, on trouve des personnes qui suivent Jésus et on dit, je vais être comme ça. Alors, je vous dis, ça fait peur. Hein? Mais les dernières paroles de Jésus, des formations professionnelles, je reviens à être missionnaire là. On les lit. Matthieu 28, 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse du Christ. Alors, mais quel est l'exemple de Jésus? Parce qu'on a parlé d'exemple là. Quel est l'exemple de Jésus? Au cours de la première année du ministère de Jésus, c'est le début de l'évangile de Jean. Et Jésus s'est profondément investi dans 5 disciples. André, Pierre, Philippe, Nathanaël et Jean. C'était les premiers qui l'ont suivi. Et l'évangile ne nous donne pas un rapport complet de cette première année. Mais ce que nous savons, c'est que durant cette première année, des hommes et des femmes ont commencé à le suivre. Ils étaient interpellés par ce qu'il disait, interpellés par son enseignement. Ils ont commencé à le suivre. Et ce n'est que plus tard, et là on se retrouve dans Marc 3, 14, où Jésus, après avoir passé une nuit dans la prière, voici ce que Marc nous dit, il en désigna 12 pour qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie prêcher et chasser les démons. La narrative de l'évangile nous montre un relationnel de personnes, d'hommes et de femmes avec Jésus. Alors, comme dans toute famille, on se bagarre, n'est-ce pas? Les frères, les sœurs se chamaillent. Eh bien, même dans les évangiles, on voit ça. C'était un relationnel de la vie de tous les jours. Des hommes et des femmes qui étaient en train de découvrir comment suivre Jésus. Ils se sont battus entre eux. Il y en a qui voulaient être être assis à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Et puis, ses disciples, ils ont été envoyés deux par deux. Vivre la première fois qu'ils prient pour quelqu'un et il y a un miracle. Vous imaginez l'étonnement? C'est comme s'ils se disaient, on a vu que ça marche avec Jésus, mais on vient de prier. Ah, ils sont bouleversés, les disciples. Et il y avait une chose qui caractérisait ce groupe qui voyageait avec Jésus, c'était une équipe. Et la formation des disciples, elle s'est déroulée à un niveau individuel, c'est-à-dire Jésus passait du temps avec des disciples seuls, mais aussi Jésus passait du temps avec trois disciples, un disciple, le groupe, et puis... Partout où ils allaient, ils marchaient à pied en plus. Alors, qui d'entre vous fait de la randonnée? Quand on fait de la randonnée avec un groupe de personnes, pendant un moment, on parle avec ce groupe-là, et puis tout d'un coup, on accélère, on va retrouver un autre groupe, on parle avec eux un peu. Et puis, on a parlé avec eux et on dit, « Ah, je veux voir cette personne-là. » On décélère pour être avec les autres, pour parler avec eux. Les disciples, ils ont vécu comme ça pendant 3 ans et demi avec Jésus. Partout où ils allaient à pied. Alors, avec ma femme, nous avons habité en Afghanistan pendant 9 ans. Et durant notre temps en Afghanistan, on a eu le privilège de faire de la randonnée dans la très haute montagne en Afghanistan. Et là, c'était pareil. On était d'autres personnes qui travaillaient là-bas, des frères et sœurs de la famille qui travaillaient là-bas, et on se retrouvait les vendredis ou les jeudis pour aller marcher dans la montagne et faire connaissance les uns avec les autres, développer nos relations entre nous, être encouragés par les autres. Et Jésus, il a exercé son ministère au milieu de ce relationnel de la vie. Alors, il y a des interactions avec Pierre, par exemple, dans Luc 22. Ou alors, un autre moment, c'est Jacques et Jean avec qui Jésus parle. Et puis, dans Matthieu 17, c'est l'ensemble. Il parle à tous les disciples en même temps. Donc, imaginez pendant ces marches. Alors, si vous avez été en Israël, vous savez qu'entre Jérusalem et la Galilée, il y a à peu près 100 kilomètres. Vous l'avez déjà fait à pied? Ben non, on ne le fait plus à pied. Moi, je l'ai fait plusieurs fois en voiture. Et ben, c'est un long chemin. Mais il en fait à pied. Chaque fois qu'il faisait l'aller-retour, il faisait à pied, ensemble. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose sur... Comment nous, disciples de Jésus-Christ, nous devons vivre notre relation les uns avec les autres. Proximité, ensemble, on fait des choses ensemble. On invite des non-chrétiens à venir faire des choses ensemble avec nous. Et ils voient ce que c'est servir Jésus. Mais c'est relationnel. Jésus les a appelés, Marc nous dit, pour qu'ils soient avec lui. Pour qu'ils soient avec lui. Marcher avec lui, le regarder, voir comment il fait avec les hommes et les femmes qui étaient autour de lui, voir comment il faisait avec ceux qui étaient perdus autour de lui. Dans ce relationnel, il y a une culture qui a été créée parmi ses disciples. Cette culture serait le début de ce qui allait se passer dans le livre des Actes et dans les Épîtres, le commencement de l'Église. Dans cette culture qui était porteuse d'une ADN, dès le départ, former des disciples qui formeront des disciples. Ça a commencé avec Jésus, mais ça a continué avec Paul. Et Paul, il a atterri à Thessalonique. Et c'est intéressant parce qu'à Thessalonique, on voit dans l'épître à Thessalonique, il y a une description de cette narrative de les disciples qui vont à Thessalonique et au travers des chrétiens ou des personnes qui sont venues à Jésus à Thessalonique, qui ont commencé à imiter Paul, Silas, Timothée. Ils ont imité ces hommes et parce que ces hommes suivaient Jésus, eh bien ces personnes-là ont dit, ben, on veut suivre Jésus aussi. Et alors, il est dit dans Thessaloniciens quelque chose d'extraordinaire. Qu'en fait, au travers du témoignage de Paul, Silas et Timothée à Thessalonique, qu'est-ce qui a commencé? Eh bien, en fait, au travers des personnes qui ont vu vivre ces trois hommes, ont commencé à suivre Jésus-Christ eux-mêmes. Et d'autres ont vu leur exemple, ils ont commencé à suivre Jésus. Et voilà ce qu'il est dit, qu'ils sont devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. L'exemple qui s'est vécu à Thessalonique a rayonné tout autour. Et même, il est dit, encore plus loin que ça. Ça a rayonné. Mais un disciple, c'est quoi, frères et sœurs? Alors, ce mot, il est important quand même, je pense. Parce que le premier appel que nous avons, frères et sœurs, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. On n'est pas appelé à être des chrétiens, on n'est pas appelé à être des adhérents, des adeptes, des membres, on est appelé à être des disciples. Et qu'est-ce que c'est un disciple? C'est un apprenant à vie. Oh là là! Apprenant à vie. Du début de notre vie jusqu'à la fin, nous allons apprendre. Et par exemple, Paul nous donne une image pour parler de ce que c'est être disciple. Ce processus d'être disciple, ce que Dieu est en train de faire en tant que vous, disciples, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Paul, il dit dans Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça ce processus d'être disciple, apprendre, continuer à apprendre, que Jésus-Christ soit formé en nous. Mais l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 2, 2, il continue ce modèle. Il dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Et ensuite, écoutez, « Et l'enseignement que tu as reçu de moi, que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » C'est ça, être un faiseur de disciples. Ce que nous avons reçu, nous sommes en train de le transmettre à d'autres. Et quand le transmettons à d'autres, nous préparons les autres pour qu'eux deviennent aussi des personnes qui vont transmettre ce qu'ils ont reçu et d'autres deviendront des disciples. C'est ça, faire des disciples. Et la dynamique spirituelle de la croissance des disciples, c'est une dynamique que Dieu va amener dans nos églises, frères et sœurs. C'est ça le changement de culture. C'est une autre manière de vivre. Vous souvenez, la vie de Jésus, c'était relationnel. Qu'est-ce que vous vivez au niveau relationnel entre vous? Qu'est-ce que vous vivez dans vos groupes de quartier? la vie de l'Église, elle est quand les gens se réunissent et commencent à servir Dieu ensemble. Ils adorent Dieu ensemble, ils sont formés, enseignés ensemble, et ils servent Dieu ensemble. Mon père est décédé à 92 ans, il y a le 22 janvier, à 2h55. J'ai eu le privilège d'être là-bas 3 jours avant qu'il ne décède, donc d'avoir des moments avec lui avant sa mort. Mes parents ont travaillé en France pendant 50 ans. Et à la mort de mon père, j'ai commencé à contacter mes grands frères africains. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison où, d'abord, la maison était ouverte tout le temps. Et il y avait des étudiants qui savaient où était caché la clé, même s'il était fermé à clé. Et les étudiants de la fac de Bordeaux, où mes parents ont implanté une église, étaient libres de rentrer dedans, se faire un thé, se faire un café, même se faire à manger dans la cuisine. Nous, on revenait d'un voyage, on arrive et on trouve 10 étudiants de la fac en train de manger ensemble chez nous. C'est normal pour moi, ça, c'est normal. Ça, c'est la vie, faire des disciples. Vous savez l'impact de cette manière de vivre de mes parents? Quand mon père est décédé, mes grands frères africains ont commencé à me contacter. Mes grands frères qui sont aux Fidji, qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans le monde. Ils ont commencé à me contacter, me dire, notre père, comment? Tu étais là quand il est mort. Ils appelaient tous notre père. C'était leur papa. Et c'est une des choses que mes parents m'ont enseigné. De vivre une manière où on vit dans les relations avec les autres. On invite des autres à venir dans notre vie, des non-chrétiens aussi. Et on vit l'exemple de Jésus-Christ. Et mon père, à 92 ans, décédé, jusqu'à 6 mois avant sa mort, il était à temps plein pasteur dans une église, s'occupait des vieux, qui était plus jeune que lui, faisait l'enseignement biblique et il formait le jeune pasteur qui commençait juste à devenir pasteur. Mais il a passé sa vie à servir. Et pour moi, c'est un exemple. Et quand nous formons des disciples, ce sont des apprenants à vie que nous formons, frères et sœurs. Vous savez ce qui arrive à la plupart des chrétiens dans l'église? Imaginez que j'ai une chaise sur l'estrade ici. Vous savez ce qui arrive quand ils viennent à Christ? Ils s'installent sur leur chaise et ils disent « Ça y est, je suis arrivé !» Qu'est-ce que Jésus nous appelle à vivre d'une autre manière que ça? À continuer à apprendre. Mais j'aimerais vous dire 5 choses de la vie de Jésus. Ce sont des choses que nous pouvons vivre aujourd'hui. La première chose, c'est Jésus a fourni un exemple à suivre. Quel est l'exemple que nous allons suivre, frères et sœurs, dans notre vie de disciples qui forment des disciples? Nous allons suivre comment Jésus a fait. C'est simple, hein? Les disciples ont appris au travers de leur vie avec Jésus, ils ont appris comment faire confiance à Dieu le Père. Ils ont appris à prier, notre Père qui est aux cieux. Les disciples ont tout appris de Jésus, ils l'ont imité tout simplement. Et frères et sœurs, nous en tant que disciples de Jésus-Christ, nous continuons à imiter Jésus, même aujourd'hui. Jésus nous a donné aussi des exemples où il dépasse les catégories sociales, n'est-ce pas? Alors, de son temps, les collecteurs d'impôts, alors moi j'aime bien cette histoire de Matthieu et Simon le Zélote. Vous imaginez le relationnel entre Simon le Zélote, celui qui croyait qu'il fallait tuer tous les Romains, qui était formé comme tueur d'ailleurs, et puis Matthieu, qui était le collaborateur qui faisait les impôts pour les Romains. Vous imaginez Christ transformer cette relation-là? Mais c'est ce que Jésus fait. Et le poids de l'exemple, frères et sœurs, est très important. Notre foi est une foi imitative. Nous imitons le Christ. Mais frères et sœurs, l'apôtre Paul dit lui-même, imitez-moi, comme je suis Christ, suivez Christ. Et ça fait peur de dire, j'ai besoin de vivre comme ça. Et c'est vrai. J'ai besoin de vivre d'une manière qui est digne d'être suivie. Une deuxième chose, c'est que Jésus a montré la priorité qu'il donne aux relations avec les hommes et les femmes. Jésus n'est pas venu créer une académie, il n'est pas venu faire une université, il est venu faire quoi ? Une communauté. Il a établi une communauté. Qu'est-ce qu'on vit dans la communauté ? Le relationnel. On vit ensemble, on apprend à vivre ensemble. Et ce que Jésus veut, c'est que nous continuions à vivre comme ça, en communauté, mais communauté qui suit Jésus et qui invite d'autres autour de vous à suivre Jésus. Et j'aimerais vous rappeler, un disciple, quelqu'un que vous accompagnez, n'est pas un projet, mes frères et sœurs. On est souvent tenté de dire c'est un projet. Pas du tout. C'est un être humain. C'est un homme, c'est une femme avec une histoire. C'est un homme, une femme avec un appel de Dieu sur leur vie. Et nous avons besoin d'être conséquents dans notre manière d'être avec eux. À cause de cela. Quand on voit les relations des disciples ensemble, et surtout l'exemple que Jésus a donné, il y avait une amitié, une réelle amitié. Est-ce que vos frères et sœurs sont des amis ou est-ce que ce sont simplement des frères et sœurs? Jésus nous appelle à être une église où on est des amis, vous savez. On a confiance l'un dans l'autre. On apprend à se pardonner. On apprend à vivre ensemble nos différences. Une troisième chose que Jésus a montré, c'était l'exemple de l'amour et du service dans son leadership des disciples. Jésus n'a pas simplement dit « Vous êtes au service les uns des autres ». Non, 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 non. Jésus, on a des exemples dans la narrative des évangiles. Laver les pieds de ses disciples. Bon, quand dans l'église on fait un culte de lavage des pieds, tout le monde sait déjà bien laver les pieds avant ça, n'est-ce pas? On n'arrive pas avec les pieds crado. On arrive avec des pieds propres, mais de ce temps-là, quand on lavait les pieds de quelqu'un, ben, il marchait par terre dans la poussière, ce n'était pas propre. Jésus a dit, il a été l'exemple pour les disciples. Et Jésus nous appelle à vivre comme lui l'a vécu. Un modèle de vie au service et de l'amour vers les disciples que nous sommes en train de former, qui sont en train de marcher avec nous. Quatrième chose, Jésus a formé des disciples, mais ils avaient Jésus. À un certain point, a commencé à parler de la croix. Il a formé les disciples avec la croix en perspective. Luc 9, 22, imaginez le choc des disciples. Alors il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Jésus a formé les disciples avec la croix en perspective. Il y a un moment dans l'Évangile où il est dit « Et tout Jésus tourna la face vers Jérusalem. » Où il est parti vers Jérusalem. Jésus a formé les disciples avec cette idée « Mes disciples, tels que j'ai souffert, vous allez souffrir. Tels que j'ai donné ma vie pour les autres, vous allez donner votre vie pour tous les autres. » Jésus a enseigné à ses disciples que, en tant que disciple, on prend notre croix et on le suit. Bien sûr, les disciples ne comprenaient pas. Mais ils ont compris. Éventuellement, après la résurrection, ils ont sans doute dit, « Ah oui, tu te souviens quand elle a dit ça ? Tu te souviens quand elle a dit ça ?» Mais ils n'avaient pas compris. Suivre Jésus-Christ, c'est aussi un sacrifice. C'est une décision que nous prenons de suivre Jésus, quoi que ça coûte. Être un disciple qui est prêt à souffrir. Ce n'est pas un mot qu'on aime. Ce n'est pas un mot que j'aime. On ne le fait pas par choix. Mais vous savez, si vous voulez être fidèle à Jésus-Christ, il va vous appeler à prendre votre croix. Il va dire, « Toi, suis-moi. » Et sois quelqu'un qui va me suivre et qui va donner l'exemple aux autres de comment suivre Jésus. Et j'aimerais vous laisser avec trois phrases. Demandez à Dieu s'il ne vous appelle pas à vivre d'une autre manière que vous ne vivez aujourd'hui. Demandez à Dieu s'il ne vous appelle pas à réexaminer comment vous vivez aujourd'hui. Deuxième phrase, demandez-lui quel paradigme à l'intérieur de votre tête ont besoin de changer dans votre vie. Et demandez-lui de vous aider à rester un apprenant à vie, à le suivre, un disciple qui forme les disciples. Et vous savez, quand chacun de vous fait ce choix, vous savez ce qui va arriver à votre église? La culture de votre église va changer. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il y a des disciples qui sont en train de former des disciples, qui sont en train de prendre des personnes là où ils en sont dans la vie, les aider à découvrir Jésus. Et votre Église changera. Il y aura une autre culture. Et je pense que ce sera une partie de vous restaurer à l'Église. Je crois que Jésus-Christ nous appelle à être aujourd'hui une Église qui forme des disciples. Amen.